examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous savez, l'argent n'est pas mauvais en soi. Avoir de l'argent, c'est correct, c'est tout à fait correct et c'est bon. Abraham était très riche. Mais c'est l'amour de l'argent que la Bible condamne. On voit ça dans 1 Timothée 6, verset 10. Parce qu'il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Lorsque l'argent dépasse ce pourquoi il a été créé, il peut devenir un instrument du mal. Alors, comme le dit Matthieu 22, chapitre 17, on va rendre à César ce qui appartient à César. Mais je vous pose juste une question, avant vraiment de répondre à ce verset que le Seigneur m'a mis dans la tête, c'est examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. Vraiment, je vous pose la question, aujourd'hui, est-ce que vous mettez Dieu sur le premier plan? C'est important. Je sais que ce n'est peut-être pas populaire de parler comme ça, mais est-ce que c'est important de poser la question? Est-ce que vous mettez Dieu au premier plan? Si c'est oui, alors c'est correct. Si c'est non, la Bible dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ça se trouve dans Matthieu 6, verset 21. Ce qui importe pour nous, là, c'est la manière dont nous allons gérer notre argent. Quel argent? Celui que Dieu nous a confié. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui se passe dans Luc 16, versets 1 à 13? C'est l'histoire de l'intendant. Donc c'est important ce matin, vraiment, avant de donner votre dîme, vos offrandes, peu importe, de se poser la question. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Merci Seigneur. Vous pouvez passer les offrandes. Alléluia. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les comme une offrande de bonne odeur, Seigneur. Merci, Seigneur, de les bénir, ces offrandes, Seigneur. De les sanctifier, Seigneur. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Les offrandes. À l'enchaînement. Je suis désolé. Ça va bien? Oui. Ça va bien, oui. Ça va ton pied? Ça ne va pas? Un peu. Ok. Je crois que tu bottais là. Okay. Salut toi. Tu vas bien? Ça va être bon? Ça va être bien. Ok, mais s'il y a de... Non. Ok, c'est bon. Salut Gaston, merci. Merci, c'est gentil. Bonjour. Ça se voit, c'est les vacances, hein?
Oui,
hein, la vacances de construction, là, c'est quelque chose, hein? Oui, c'est bon le repos. Salut Annie. Moi, je sais bien. Bonjour, ça va bien?
Ça va bien?
Oui,
aussi.
Oui, oui, ça va bien? Oui, toi aussi. Bonjour, jeune homme. Toi aussi. Tu es venu tout seul? Ah, ok. Tu pourras lui amener. Dis-toi. Oh, bonjour. Allez, ça faisait longtemps. Comment tu vas? Je suis heureux de te voir, tu sais. Oh, c'est agréable. Oui, merci. Ça va? Aïe, ouais, toi aussi.
Bonjour madame.
Ça va Junior? Bonjour. Alors tu fais des enfants? Tu fais des enfants? Ce matin? Ah ok, ok. Oh, oui, je comprends. Ah oui, oh, ouais. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Oui. Ok. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci. Hein? Comment? De loin. Non, je viens de France, mais ça fait plusieurs années maintenant. Moi, mais je... Vas-y. Après, je vais les faire mal.
Ils vont faire mal.
Après, je vais les faire mal.
Tu as bien de venir.
Merci.
Soyez des exemples.
Ça, alors ça, c'est un plaisir de te voir. J'ai vu ta fille, là. J'ai eu les yeux qui sont illuminés. Je suis heureux de vous voir. Bienvenue.
Salut, jeune homme. Bienvenue. Ça t'appelle,
vous avez le coup?
Oui.
Bonjour. Ça va bien? Bienvenue alors. Bon. Ça va?
Bonjour.
Ça va bien?
Oui. Ça paraît bien?
Mais oui, ça paraît.
Merci Seigneur.
Ouais.
Merci Esprit Saint. Merci Jésus.
Bah ouais, ouais, on est tous là pour exprimer notre joie.
Oui, merci.
Avec les? Ouais. Le téléphone technique. Il faut savoir rigoler. De toutes les choses, il faut. Alléluia. Marco, c'est bon. Bonjour. Comment ça s'est passé dimanche dernier? Et est-ce que tu as...
Beaucoup de générosité de César.
Ok, heureux. Ah, merci Seigneur.
Ouais.
Et alors, comment s'est passé après? Parler en langue tout ça, là, cette semaine. Ok. Ok. Non, non.
Vous voyez, je veux juste me laisser verser par la présence
du
Seigneur.
Ok.
Je dis qu'il me donne, je veux me soustraire, mais je veux ce moment-là, c'est peut-être là, c'est bon, à cause de mon habitude.
Il est là, lui.
C'est ça.
Il est là, il est juste derrière toi, il est à côté de toi, il t'attend.
C'est ça.
Le bon moment.
Oui, il est jamais loin. Hein.
Non. C'est bon d'être dans la même famille. Hein.
Oui.
Enfin, c'est ça, là. Il faut le laisser faire. Mais sache que si tu as besoin, il est toujours là. Oui, c'est ça. Oui. C'est le message que j'ai eu en venant ici, moi. Tu ne dois compter que sur moi.
Oh.
Ça a été dur, là. Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ouais, il faut que tu comptes que sur moi. Le Seigneur m'a dit. Tu ne dois compter que sur moi. Non. C'est pour ça. En se confiant à lui, on ne peut pas avoir de déception. Parce qu'on a ce que notre cœur désire. Mais il faut que notre cœur se mette en accord avec lui pour lui demander, en fait, ce que lui désire que nous ayons. C'est tout un... Il faut qu'on change notre façon de penser. Ouais, 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 ouais. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est... Bah, c'est bon. C'est excellent. On peut continuer. Merci. Allez, on y va. Un, deux. Merci Seigneur. Bien, on va commencer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va tous prendre notre Bible. Alléluia. Si vous n'avez pas de Bible, vous faites comme moi. Vous prenez vos papiers, dans lesquels il y a tous les versets bibliques, et vous dites Seigneur, la Bible, c'est ta parole qui a été inspirée par ton esprit. Ce qu'elle dit, la vérité. Et ce qu'elle dit s'applique à ma vie. Et ce qu'elle dit que je peux faire, je, par la foi, je le fais. Ce qu'elle dit que je peux avoir, par la foi, je le prends. Et ce qu'elle dit que je peux être, par la foi, je le suis. Alléluia. Je vais écouter la parole de Dieu. C'est une semence incorruptible. Elle va me changer. Jamais je ne serai plus pareil. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. On va continuer l'ère de la grâce. Diapositive 16. Alléluia. Merci Seigneur, ce que tu nous as inspiré Seigneur, et tout ce que tu dis Seigneur dans ta parole s'applique dans ma vie. Et Seigneur, ce qui va être dit aujourd'hui, que ce soit Seigneur ton Saint-Esprit qui le témoigne dans le cœur de chacun. Et tout ce qui n'est pas témoigné Seigneur, merci Seigneur, parce que les gens vont le mettre de côté, chaque personne va le mettre de côté, et ne prendre que ce qui est bon pour eux. Merci Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans chacune des personnes. Et chacun de vous, vous êtes responsable de votre relation avec Dieu. Alléluia. Alors la semaine dernière, on a parlé de la première partie, qui était « Où en sommes-nous au juste dans cette ère de la grâce ?» En fait, on a vu que c'était une grande histoire d'amour, histoire de l'homme avec Dieu. Et que dans cette grande histoire d'amour, il y a eu plusieurs chapitres. On était arrivé à parler de du chapitre qui nous intéresse, c'était le chapitre de la grâce. Et aujourd'hui, on va rentrer dedans et on va essayer de comprendre. Le Seigneur, là, m'a montré plusieurs points qu'il fallait toucher aujourd'hui. Alors, je vais essayer de les apporter du mieux que je peux. Alors, nous avons vu qu'à chaque fois que l'homme a essayé de satisfaire le Seigneur, pour chaque chapitre qu'on a vu, on a vu que l'homme a failli. Mais on a vu que la grâce de Dieu, à chaque fois, s'est manifestée de plus en plus fort. Et s'est manifestée pour que l'homme puisse comprendre finalement que, par lui-même, il ne peut pas se racheter. C'est pas par la conscience qui devait le guider. 42, s'il te plaît. C'est pas par la conscience qui devait le guider. C'est pas non plus par le gouvernement qui devait le pousser à être guidé, qui aurait dû l'y aider en tout cas. C'est pas encore par les 613 ordonnances de la loi que l'homme pouvait se racheter. Finalement, devant l'évidence que l'homme est amené à comprendre que seul, il ne peut pas y arriver. Et la seule réponse, la seule solution, c'est la grâce de Dieu. Le pardon définitif de Dieu. C'est-à-dire, ça revient à dire en fait, que Dieu va payer lui-même la rançon du péché pour satisfaire sa justice, à laquelle, n'oubliez pas, il reste soumis lui-même. Et cela, Dieu l'a fait par Jésus, le seul agneau qui pouvait prétendre à être pur et offrir un sacrifice d'un sang qui était pur, non taché par le péché. Seul Jésus pouvait payer par son sang. Vous savez, le sacrifice de sang des Juifs pour laver les péchés était imparfait. Parce que, d'abord, il était de provenance animale, puis ensuite, il pouvait couvrir qu'une seule année. Mais le sacrifice de Jésus, il est éternel. Il suffit juste d'accepter d'être sacrificateur pour Dieu. En effet, c'est nous, en tant que nation, qui apportons avec Jésus le sang de l'agneau pour le pardon. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu, avec Christ. Ce mot est important. Vous allez voir pourquoi. On va le développer. Donc, si vous êtes né de nouveau, si vous n'êtes pas né, il y aura un appel en fin de réunion, vous êtes nécessairement sacrificateur avec Dieu. Et vous entrez dans une nouvelle alliance avec Dieu. Cette alliance va s'appeler l'Église, avec un grand E. Elle est aussi appelée le corps de Christ. Mais c'est aussi la fiancée qui est décrite dans la parole et qui va prendre sa place d'épouse. L'Église n'existe sur la terre que pendant une très courte période. Cette courte période s'appelle l'ère de la grâce. Et elle va bientôt prendre fin. Je ne sais pas quand. Ne me demandez pas. Personne ne le sait. Diapositive 42, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez que l'ère de la grâce, ben, c'est un petit rond dans tout le grand livre d'amour de Dieu avec l'homme. Et ce petit rond-là, il est extraordinaire. Et en plus de ça, on est en train de le vivre. Alors c'est une double grâce. C'est une grâce, mais on est dedans. Peu importe ce qui va se passer après, ce n'est pas vraiment l'objet de ce prêche, on pourra peut-être en dire quelques mots, mais ce qui est important, c'est que nous sommes actuellement dans la période la plus intéressante de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Alors, allez, c'est pas échappé. On va aller sur la 44, et là on va lire Jérémie. Jérémie 31 au verset 4 dit « Voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Et voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Très important, très important. Deux choses importantes. La loi est gravée dans notre cœur, plus sur des tablettes, notre cœur. Et deuxièmement, « Car tous me connaîtront. » Tous. Pas besoin de passer par des sacrificateurs terrestres. Nous sommes tous sacrificateurs, donc on le connaît tous. Alléluia. Diapositive 47, s'il vous plaît. Regardez ce qui se passe dans Daniel. C'est écrit petit, mais on va essayer de le lire. Daniel, voilà ce qu'il reçoit du Seigneur. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il n'a pas dit la fin des temps. Il dit le temps de la fin. Ça s'applique à nous. Ok ? Donc c'est vraiment un passage de Daniel qui nous concerne. Plusieurs alors le liront, ce livre. Et la connaissance augmentera. Alléluia. C'est une mystérieuse dispensation que celle de l'Église. Cette dispensation était plus ou moins inconnu avant la venue de Jésus. C'est un exemple de révélation progressive. Là, Daniel, il parle de quelque chose, mais il ne comprend pas. Et personne ne comprenait, en fait. Paul y fait écho aussi, dans Éphésiens 3, verset 9, 10, de mettre en lumière la dispensation du mystère caché. On est là-dedans. De cacher, pas pour nous, cacher de toute l'éternité de Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Là, ça montre que personne ne le savait. L'enfer n'était pas au courant de ce qu'allait se passer. Vous savez quoi ? L'enfer avait... Finalement, c'est quoi l'Église ? L'Église vient de Christ. C'est important. L'Église vient de Christ. Jésus n'est pas là, n'était pas là avant que Jésus commence à la bâtir, que le Saint-Esprit ait été répandu sur toute chair. Mais on peut se poser, c'est quoi le sens des bons de l'Église ? La démarche comment ? L'Église, c'est quoi ? C'est qui ? L'Église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Qui a été le premier ? Jésus. Quand ? Quand il a ressuscité par son Père, après avoir vaincu l'enfer. Donc l'Église, le temps zéro, c'est quand la puissance du Saint-Esprit s'est déversée et a fait renaître Jésus. Le troisième jour, l'Église a commencé. Par le premier né de nouveau, qui était Jésus. Regardez, pour s'en convaincre, on va lire simplement quelques passages. Romains 8, au verset 29. Ceux qui d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de quoi ? De frères. Déjà là, on commence à comprendre que ouais, l'Église, ce n'est pas une suite d'individus, c'est des gens qui sont liés ensemble. Multitude de frères. C'est important. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute créature, premier-né de nouveau. Jésus est le premier-né de nouveau. Colossiens 1, verset 18, dit « Et il est, lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. » Important de comprendre que là, que Jésus est la tête et l'Église est le corps. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ, et il en est la tête. Ok ? Ce qu'il fallait mettre dans le petit... Alors, à cause de ça, on voit dans Éphésiens 3, 1, 8, à cause de ça, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, effectivement. On avait beau lire la parole, personne ne comprenait ce qui se passait. Paul a eu la révélation de l'Église, ce mystère. C'est pour cela qu'il peut en parler, parce qu'il a eu la révélation. Sonder les Écritures, ça n'aurait amené à rien. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens des richesses incompréhensibles. Effectivement, c'est incompréhensible. Comment Dieu peut habiter dans l'homme ? C'est le cas. Dieu habite dans l'homme. C'est incompréhensible. Et de mettre la lumière de quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. Jésus est le premier-né, c'est la tête de l'Église. La tête de l'Église. L'Église vient de Christ. Et l'Église ne vient que de lui. Dieu a formé Ève à partir d'Adam, on l'a vu. De même, il a formé l'Église à partir de Christ. Alléluia. Dieu ne nous a pas simplement donné la grâce, la puissance du Saint-Esprit, sa nature. Il nous a donné aussi le corps de Christ. Alléluia. Dieu s'est donné lui-même comme l'homme a donné de lui-même. Sa femme Ève. Dieu s'est donné lui-même. Alléluia. L'Église née de Christ. L'Église est née de Christ. La Bible nous montre que Christ, c'est donc la tête de l'Église. Et que l'Église, c'est le corps de Christ. Du point de vue des individus qui constituent cette Église-là, chaque chrétien est un membre du corps de Christ. Il y a son origine. Écoutez ça, il y a son origine dans la nouvelle vie avec Christ. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Mort avec Christ. Ressuscité avec Christ. C'est de là que naît l'Église. Il y a une chose que nous devons remarquer. C'est que le corps de Christ est sur la terre. Aujourd'hui. Mais il n'est pas terrestre. Vous comprenez ? Le corps de Christ est céleste. Pourtant, il est manifesté aujourd'hui sur la terre. Le corps de Christ est... J'en discutais l'autre fois avec Mariana, mais le corps du Christ, c'est la seule entité aujourd'hui sur la terre qui n'appartient pas à la terre et qui est sur la terre. L'Église n'appartient pas au monde. L'Église appartient au ciel. Vous savez, petite réflexion amusante, mais diapositive 48, s'il vous plaît. Quand Paul persécutait l'Église sur la route qui menait à Damas, vous vous rappelez ? Le Seigneur lui a demandé, « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» C'est ça qu'il a dit ? Alors, il a dit quoi ? Dites-moi, là. Oh oui ! La parole du Seigneur est assez étrange. Il n'a pas dit, « Pourquoi tu persécutes mes disciples ?» Il n'a pas dit ça. Il a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Me persécutes-tu ? » Alléluia. Il n'a pas dit non plus, « Saul, Saul, pourquoi tu persécutes mon Église ?» Non, non. Il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Cela, Paul est intelligent, vous savez. Il est forcément instruit, mais en plus intelligent. Là, il a tout de suite tiqué, il a tout de suite compris. Paf ! Ça montre à Paul, quoi ? Que l'Église de Christ et Christ ne font qu'un. L'Église ne fait qu'un avec Christ. Et lorsqu'un homme persécute l'Église, il persécute Christ. Cela nous montre aussi que le corps de Christ est sur la terre, parce que s'il n'était pas sur la terre, personne ne pourrait le persécuter. On est bien d'accord ? Donc, on ne vit pas un mirage, on est sur la terre. C'est vrai, l'Église est sur la terre. Le corps du Christ est sur la terre, c'est pour ça, c'est pour cela que Paul pouvait le persécuter, puisque le corps du Christ était sur la terre. Et en persécutant l'Église, Paul persécutait le Seigneur lui-même. Alléluia. Le corps du Christ est la seule condition, on va dire, nécessaire. Le corps du Christ est la seule condition nécessaire pour créer l'Église. Quiconque est à Christ doit être dans l'Église. Quiconque est dans le corps de Christ, quiconque ne peut pas être rejeté. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Quiconque et dans le corps du Christ, ne peut pas être rejeté. Alléluia. Ça, c'est bon, hein ? Comment est-ce possible que tous ensemble, nous devenions un seul et unique corps ? Comment c'est possible ? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. Christ est devenu des millions de chrétiens. Oui ! Vous imaginez la tête de Satan quand il a vu ça ? Il a dû se cacher là, mais c'est pas possible ! C'est un cauchemar ! Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit baptise ces millions de chrétiens pour ne former qu'un seul corps. Diapositive 48, dernier, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous sommes tous pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Ainsi donc, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. De nombreux chrétiens sont immergés dans un seul corps. Chaque chrétien, c'est comme un morceau de pierre qui a été bien taillé, bien poli, et qui est mis dans un grand mur ou dans un grand rocher. Et le Saint-Esprit, c'est comme un ciment qui va faire que tous ces morceaux vont pouvoir s'intégrer dans ce mur ou dans ce rocher. Alléluia. C'est sûr que pour avoir la plénitude de l'Esprit, il faut avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu devraient tous être baptisés dans l'Esprit pour devenir un corps efficace. baptême du Saint-Esprit, ça va amener l'efficacité dans le corps. Les gens vont pouvoir travailler ensemble, tous soumis les uns les autres et avec la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, le corps va être efficace. C'est ce qui s'est passé dans, vous savez, dans Acte 2, la Pentecôte. Personne n'était vraiment efficace. Les gens étaient, ils avaient peur de sortir. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont sortis et puis avec assurance, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Il n'y a qu'une seule condition qui soit nécessaire pour permettre la fraternité dans l'Église. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important, comme tout à l'heure j'ai vu, qu'il est bon d'être ensemble entre frères, et qu'il est bon d'être ensemble entre sœurs, c'est bon. Il y a une seule condition nécessaire pour permettre la fraternité dans l'Église, c'est que nous soyons tous membres les uns avec les autres dans ce même corps. Nous ne pouvons pas avoir de fraternité qui soit basée sur un autre fondement. Ça ne tiendrait pas. Tout rapprochement qui se fait sur un autre critère que celui du corps du Christ va conduire à une division. Alléluia. Et nous sommes ici, nous, pour maintenir la fraternité entre chrétiens, la communion au sein du corps, et non pas une communion dans un cadre plus petit que celui du corps. On n'a pas une vision d'église locale, on a une vision de l'église pour le Seigneur. Alléluia. On n'est pas enfermé sur nous-mêmes. L'église est tournée vers les autres, et on est tous unis aux autres. 49. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 14-21, il est dit « Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'y en a pas moins du corps pour autant. Je le relis. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant, etc. En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est un ordre divin. Mariana, mercredi, nous parlait d'ordre. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Vous savez, le corps du Christ, c'est un ordre divin. Chacun a sa place dans cet ordre divin. Oui, c'est un Dieu d'ordre. Le corps de Christ est dans l'ordre, un ordre divin. Alléluia. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Alléluia. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. Vous savez, chaque membre de l'Église doit trouver sa place qui correspond pour le servir Jésus. Tout le monde doit servir dans l'Église. Il ne devrait pas y avoir de monopole pour servir. Ou un, ou deux, ou trois qui remplacent tout le monde et qui accomplissent leur travail. C'est pas ça le corps du Christ. Tout système qui ne donne pas la possibilité à chacun des membres du corps du Christ de fonctionner n'est certainement pas le corps. Dans un corps physique, les yeux, la bouche, les pieds, les mains pourraient très bien être occupés sans pour autant se gêner mutuellement. Vous comprenez? Quelque chose ne va pas si les yeux fonctionnent tandis que la bouche, les pieds et les mains ne font rien. Ça ne marche pas. Si les yeux, la bouche, les pieds et les mains fonctionnent ensemble, s'ils sont coordonnés comme une seule entité, alors nous avons un corps. Si certains servent et d'autres ne servent pas, ou si un seul ou uniquement quelques-uns servent, alors nous n'avons pas le corps du Christ. C'est important ce que je dis là. Ça peut changer complètement la vision que nous avons dans notre Église et la vision du monde par conséquent. Quelques-uns, personne ne devrait aller au-delà de sa propre fonction. Par exemple, pour prendre en charge le service des autres, chaque membre doit prendre sa place et pas la place d'un autre. Et aucun membre ne devrait céder sa propre fonction dans le corps. Tous devraient servir ensemble et chacun devrait s'appliquer à son propre travail. C'est de cette manière que le corps du Christ va être efficace. Le corps du Christ, de la même manière, ne peut pas permettre qu'un seul membre néglige sa charge. Tout le corps est dans les ténèbres si les yeux ne voient pas. Tout le corps est empêché d'avancer si les pieds disent « je ne bouge pas ». Les yeux doivent voir, les pieds doivent marcher. La personne qui a reçu le ministère d'exercer quelque chose, doit servir en conséquence. Cette personne refuse de se consacrer à ce service-là, ça veut dire qu'elle enterre son talent. Vous connaissez la parabole du talent ? Elle enterre son talent. Et l'Église va souffrir. Si certains membres refusent de fonctionner, le corps va subir de grosses pertes. Et ça, vous le savez tous. Tous ceux qui ont un talent doivent se lever pour venir servir. Et l'Église alors prospérera certainement. La prospérité de l'Église dépend de la prospérité dans tous les niveaux. Spirituel en particulier, de l'Église va dépendre du fonctionnement ou du non-fonctionnement de ceux qui ont un talent. Et je vous rassure tous, on a tous un talent. Dieu nous a donné au moins tous un talent. Donc là, je ne suis pas en train de parler de certains, en l'évident, hein. Là, je parle de tout le monde. Si simplement... Seulement quelques-uns se donnent beaucoup plus de peine et travaillent plus que ce qu'ils doivent, on ne va pas former l'Église. Mais si tous les frères et sœurs se donnent la peine de travailler ensemble, alors nous aurons une Église qui sert. Alléluia. Sinon, on va avoir une Église qui va servir un corps qui est immobile. C'est ça que vous voulez ? Non, on veut que toute l'Église se motive. Alors, il n'y a pas de réaction, là ? Alléluia ! On veut une Église qui bouge. On ne veut pas une Église où il y a des gens qui vont faire l'office et d'autres qui sont là et qui reçoivent simplement. C'est déjà bien de recevoir, mais c'est pas ça l'Église. Désolé. L'Église, c'est servir d'abord. Alléluia. Nous devons apprendre à servir selon nos capacités, pas au-delà. Refusez de servir au-delà de vos capacités. Ce serait pas efficace. Et vous allez empiéter sur quelqu'un d'autre. Mais apprenez à servir selon vos capacités. Alléluia. Personne ne devrait laisser sa responsabilité reposer sur quelqu'un d'autre. Alléluia. L'Église est le corps du Christ. Par conséquent, la mission sur la terre, le corps du Christ, doit manifester son unité. Elle doit montrer à tous que le corps est un. Elle doit montrer à tous que l'Église n'est pas du monde. Alléluia. C'est ça qui est important. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est toujours 49. C'est pourquoi servir Dieu ? Et là, je vais aborder un point. On va le faire vite, mais il faut le faire. Un point important parce que ça faisait plus longtemps que je savais qu'il fallait que je rentre là-dedans. Mais c'est un point peut-être un peu délicat. Je vais essayer de le faire le mieux que je peux. Alors, si je le fais mal ou si je le fais de manière incorrecte, ne m'en veuillez pas, je vais essayer de faire le mieux possible. Et puis... si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre à la fin. Je vais vous dire pourquoi il faut servir Dieu. De manière brute. Parce que nous sommes la sacrificature de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est quoi ce mot-là? Mais c'est ça la réalité. Nous sommes la sacrificature de Dieu. Et je vais vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des sacrificateurs. On n'a pas le choix. Donc, le mot là, l'Église, c'est la sacrificature de Dieu. Numéro 2, l'Église est formée de serviteurs pour Dieu. L'Église est formée de serviteurs pour Dieu, c'est le premier mot. Et le deuxième, l'Église est la sacrificature de Dieu. On va expliquer, hein? Mais c'est ça la clé. Je vais essayer de vous expliquer ça du mieux possible. C'est vraiment important. En fait, je pense que c'est une caractéristique essentielle, cette nouvelle alliance. Pendant environ 1500 ans, depuis les temps de Moïse jusqu'au temps de Christ, le peuple de Dieu était incapable de venir à Dieu directement. Vous savez ça. Une seule maison, on l'a appelée la tribu de Lévi, était autorisée à être sacrificateur. Et vous savez ce que c'est qu'un sacrificateur? Parce que on en a parlé la dernière fois. Un sacrificateur, c'est celui qui offre une offrande en vue de s'approcher de Dieu. Donc, une seule tribu pouvait le faire, c'était la tribu de Lévi. Et d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de cette maison-là ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, en tout cas directement. S'ils le faisaient, là, ils mouraient. Et pendant cette période, le ministère de sacrificateur est devenu un ministère très puissant, mais un ministère réservé à cette maison-là. Et l'homme, pour rentrer en contact avec Dieu, avait besoin de ses intercesseurs, que l'on appelait donc des sacrificateurs. En dehors des sacrificateurs, l'homme n'avait aucun moyen de venir à Dieu. Et d'une manière générale, on a besoin d'être sacrificateur pour venir à Dieu. Mais avec l'avènement du temps de la grâce, le salut et la rédemption atteignent tous les hommes. Et la parole vivante nous est enfin donnée. 1 Pierre 2, 5, est-ce que vous l'avez là? C'est bon. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Ok? Cette maison, c'est qui? C'est tout le monde. Tous ceux qui acceptent Christ. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc l'Église est la seule occupation. L'Église a une seule occupation, c'est servir Dieu. L'Église a une seule occupation, c'est servir Dieu. Dans Pierre 1, versets 2, 4 à 7, Pierre nous dit que Christ est la fonction de l'Église. Il était la pierre qui a été rejetée par ceux qui la bâtissaient, mais maintenant, elle est devenue la principale pierre d'angle. Et nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous sommes assemblés, édifiés à une maison spirituelle. Nous sommes devenus un saint sacerdoce pour Dieu. Tous ceux qui sont sauvés sont maintenant sacrificateurs avec Dieu. Toutes les pierres vivantes, toutes celles qui constituent la maison spirituelle, sont maintenant des sacrificateurs de Dieu. Alors, à ce moment précis de l'histoire, une promesse qui avait été faite pendant 1500 ans a enfin été accomplie par Dieu. Ce que les Israélites ont perdu, l'Église l'a retrouvé. C'est quoi? Je parle de la sacrificature universelle. A été perdue par Israël. Cette sacrificature universelle a été accomplie pour l'Église, avec l'Église. Et tous ceux qui sont sauvés aujourd'hui sont appelés à être des sacrificateurs. 50, diapositive 50. C'est sûr que c'est important parce que tout le monde maintenant a accès avec Dieu. Regardez, on va prendre Apocalypse 1, 6. Là, c'était 49, je crois. Tu peux revenir à 49. Voilà. 1, 6. 1, 6, qu'est-ce qu'elle dit? Et qui a fait de nous un royaume de... On ne parle pas du royaume après... Après les tribulations, là, hein? On parle du royaume maintenant, hein? Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? À l'origine, toute la nation d'Israël devait être sacrificateur. Malheureusement, ils ont perdu cette sacrificature universelle. Et Dieu a réservé une tribu pour être sacrificateur. Aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à l'Église sont redevenus sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous sommes ce royaume de sacrificateurs que Dieu avait l'intention de mettre en place et que Dieu a mis en place maintenant. Parce que c'était son intention, avoir un peuple de sacrificateurs, un peuple de personnes avec qui lui peut rentrer en contact et qui peuvent avancer devant lui avec une offrande. Quelle offrande ? L'offrande de leur vie. Par le sang de Jésus. Alléluia. Nous offrons une offrande spirituelle aujourd'hui. Et nous avons accès au trône de Dieu parce que nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Enfin, Dieu a réussi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. L'Église et la sacrificature. Cela veut dire que tous ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu, aujourd'hui, n'ont plus qu'une seule occupation. Quelle occupation ? Celle de servir Dieu. C'est ça la parfaite volonté de Dieu. Mais ça veut dire quoi en fait, en termes pratiques ? On va tous être pasteurs ? Non. Si quelqu'un est infirmier, son occupation est de soigner. Mais il va le faire en témoignant qu'il est en Christ. C'est ça la différence. Alléluia. S'il est enseignant, son occupation c'est d'enseigner. Mais il va le faire avec le talent de Dieu. S'il est agriculteur, son occupation c'est l'agriculture. Mais il va gérer ses affaires avec l'amour, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alléluia. Si c'est un homme d'affaires, son occupation ça va être faire des affaires. Mais il va montrer autour de lui qu'il est chrétien et qu'il agit comme un chrétien. Alléluia. Non, ça ne va pas changer votre travail, mais ça va changer la préoccupation que vous avez. Elle va changer. Tous les chrétiens ont une seule occupation, c'est de servir Dieu au travers de leur travail, au travers de leur activité, au travers de leur vie et de leur famille. Alléluia. C'est ça la pleine volonté de Dieu. À partir du moment où nous sommes sauvés, nous devenons sacrificateurs avec Dieu. Dès lors, nous servons Dieu. C'est l'objectif spirituel de toute notre vie. Tout chrétien possède qu'une seule occupation, c'est celle de servir Dieu au travers de sa vie. C'est important, encadrer ce mot-là. Alléluia. Dieu a enlevé la sacrificature aux Israélites lorsqu'ils ont péché. Vous savez, quand le temple a été détruit, là, la sacrificature ne fonctionnait plus. Le temple a été détruit, donc c'est clair que c'est fini. Aux yeux de Dieu, le service est un grand privilège. Servir Dieu en tant que sacrificateur est un grand privilège. C'est un grand honneur aussi. Dieu n'a aucune intention de nous persuader ou de nous supplier à le servir. Il n'a aucune intention de chercher l'approbation des hommes. Ce serait la gloire de l'homme, non celle de Dieu, de se faire appeler sacrificateur. Dieu permettait uniquement au sacrificateur de venir à lui. Au lieu de Dieu, la sacrificature est une confiance exceptionnelle qui est accordée aux hommes. Et il confère sa gloire et ce grand honneur à l'homme de se tenir devant sa face. Alléluia. C'est l'honneur suprême de l'Église que d'être sacrificateur pour Dieu. Car Dieu nous a élevés à cette position-là. Dieu nous a élevés à cette position. Alléluia. Alors, on ne va pas dire qu'on ne peut rien lui donner au Seigneur. On va dire que notre plus grand honneur, c'est que Dieu accepte ce qu'on a à lui offrir. Alléluia. C'est un honneur magnifique, merveilleux, que les gens comme nous puissent servir un Dieu si grand. Et c'est ça la grâce. Vous savez, on parle de l'évangile, l'évangile de grâce, la grâce, l'ère de la grâce. Mais c'est quoi cette ère de la grâce? Oui, c'est l'évangile. L'évangile, c'est pas simplement le salut de Jésus. C'est aussi que des personnes comme nous puissent servir Dieu. Voilà un bel évangile. C'est un grand évangile à la gloire de Dieu. Alléluia. On va le servir comme sacrificateur. Alléluia. Et ça, c'est une belle information. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons choisir. Soit ne pas être chrétien du tout. Du tout. Soit être parmi ceux qui consacrent tout au Seigneur. C'est tout ou rien. C'est ça la réalité. Si nous sommes chrétiens, nous devons être sacrificateurs avec Dieu, à moins. Ça veut dire serviteurs. Ça veut dire que nous servons le Dieu. Ça veut dire que nous sommes honorés de pouvoir le servir. Ça veut dire qu'il nous accepte quand on s'avance devant lui, vêtu de l'habit de Christ. Alléluia. Dès qu'on devient chrétien, vous devenez sacrificateur. Si vous voulez être chrétien, vous devenez sacrificateur. Si vous attendez à ne pas être autre chose qu'un sacrificateur, restez à votre place. Vous devez vous-même être sacrificateur. Personne ne sera sacrificateur à votre place. Ça veut dire que lorsque vous devenez chrétien, vous êtes sacrificateur, mais vous devez exercer en tant que sacrificateur. Vous devez vous approcher du Seigneur et lui offrir le sacrifice de votre vie. Personne ne le fera à votre place. Personne ne s'occupera de vos affaires à votre place. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Ok ? Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre la main aux autres. C'est pour ça qu'au contraire, il faut tendre la main aux autres. Que chacun arrive à maturité. Diapositive 50, s'il te plaît. C'est sûr que, contrairement au chapitre de la loi, aujourd'hui, c'est plus simplement le peuple juif qui est concerné. Le mur de séparation entre les juifs et les païens n'est plus. Et aujourd'hui, Dieu s'attend à ce qu'on soit un seul groupe, une seule bergerie. Le peuple d'Israël spirituel. Alors on pourra lire Éphésiens 2, 11 à 12, 11 à 22, pardon. C'est assez long, donc prenez juste note. Nous sommes une sacrificature universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chrétiens nés de nouveau sont sacrificateurs. Et ça veut dire que être sacrificateur aujourd'hui, dans cette ère de la grâce, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a aucune exception. C'est sûr que ce dénouement était imprévisible. Vous savez, diapositive 51, dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12, il est dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils sont impliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé une chose, pas révélé de comprendre aux prophètes, mais il leur fut révélé qu'une chose. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous. Maintenant, elles vous sont annoncées par ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y apporter leur regard. Alléluia. La position de l'enfant de Dieu sous la grâce n'est pas du tout la même que la position de l'homme sous l'innocence, Adam. Ni encore la position de Noé sous la conscience. Ni encore la position de Noé sous le gouvernement. Ou encore moins la position d'Abraham sous la promesse. Et encore moins la position de l'homme pendant l'ère du royaume après les tribulations. Ceci n'a rien à voir. On est dans une position exceptionnelle. Une position qui est unique, qui était imprévisible, que personne n'a pu prévoir. Mais malheureusement, ce mystère caché qui a été révélé va se terminer. Alors c'est sûr qu'on ne va pas parler aujourd'hui de la dispensation du royaume, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étudier par exemple dans des enseignements à l'école biblique, mais je pense éventuellement faire un polycopier qu'on pourra mettre à disposition à la librairie, ça c'est aussi dans ma tête, pour parler un peu de tout ça avec un peu plus de détails. Mais la position de l'homme pendant cette ère de la grâce est un mystère qui est révélé que maintenant. Il fait partie de l'Église, le corps du Christ, l'épouse de Christ. C'est une position extraordinaire et inimaginable dans l'histoire de l'humanité, ce que je disais tout à l'heure. Cette position, c'est pour ceux qui ont vécu pendant ce chapitre de l'histoire uniquement, et qui ont accepté Jésus comme sauveur pour nos péchés et maître résident de nos vies. À ces personnes, il est donné de renaître, de faire partie de la cité céleste tout de suite, et d'accéder au ciel par l'intermédiaire de la foi. Les enfants de Dieu, le Saint-Esprit en a fait sa demeure terrestre devant l'incompréhension totale des êtres spirituels. On l'a vu, les anges, ils voudraient bien, ils essaient de comprendre ce que c'est que l'Évangile, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce mystère. C'est quoi? C'est pourquoi Dieu dans leur corps, Dieu qui vit dans des êtres, mais je ne comprends pas. Les anges ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un mystère qui nous est révélé. Dieu a fait sa demeure terrestre en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, digne représentant sur la terre. Alléluia. Alors c'est sûr que nous avons une nouvelle position, une position inimaginable, incroyable, mais aussi une nouvelle responsabilité. Et ça va avec. C'est sûr qu'être sacrificateur, c'est nécessaire, mais ça entraîne des tas de choses derrière. Ça entraîne une vie qui est en ordre. Alléluia. Alléluia. Alors, une nouvelle responsabilité. C'est quoi cette nouvelle responsabilité? Premièrement, tout homme, il s'agit de tout homme de se repentir de ses péchés, d'accepter d'être pardonné, gracieusement, par le moyen de la foi. D'abord, se repentir de ses péchés. C'est la 51, c'est ça. Ouais. D'abord, se repentir de ses péchés, première chose. Ensuite, d'accepter par la foi d'être pardonné par Dieu, par le sacrifice de Jésus. Deuxième chose, notre responsabilité. Troisième chose, qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger, c'est de grandir vers la maturité en Christ. Ça fait partie du... Quand vous acceptez d'être chrétien, vous recevez un package, vous savez, un sac à dos, et dedans, il y a plein de choses. Et ces choses-là, il faut les remplir. Et l'une des poches, il est marqué « Tu dois grandir jusqu'à la maturité en Christ. » C'est pas pour les autres, c'est pour nous. Troisième chose très importante. Et enfin, la quatrième chose qui est aussi très importante, on doit prendre une part active dans le corps spirituel de l'Église. Pas des coups? Pas « Ouais !» Alléluia! Bon, c'est correct. Prenez un. La quatrième chose très importante, on doit prendre une part... Et ça, c'est pas une option, hein. C'est pas une option, ça fait partie des bases. Prendre une part active dans le corps de Christ, dans le corps spirituel. Cette part active, c'est quoi? Ben, c'est annoncer la bonne nouvelle, on a un mandat. On a tous le même mandat. Et ça aussi, c'est pas une option, le mandat. Ah ouais, peut-être qu'un jour je le ferai. Non. C'est pour tout le monde. Et c'est pour maintenant. Vous êtes chrétien, vous acceptez les quatre choses en même temps. Pas de choix. Ou alors vous n'êtes pas chrétien. Mais si vous êtes chrétien, vous êtes tout ça. À la fois, en même temps. Alléluia. Donc, on s'engage à quoi? À grandir dans la maturité avec Christ. Ce n'est pas une option. Il faut mettre du temps à part. Il faut qu'on lise la parole, il faut qu'on grandisse. C'est pas une option. Et qu'on serve l'Église. On la serve comment? D'abord par le grand mandat. Ça là, c'est essentiel. C'est essentiel. Parce que cette ère-là va se refermer. Les portes vont se refermer. Et les gens après, qui vont rester là, et ils n'auront pas cette opportunité. Et croyez-moi, ça sera difficile pour eux. Ça sera très difficile pour eux. Alors, offrons-leur ce qu'on a de meilleur. C'est qu'on on a quoi de meilleur ? Notre unité, nous sommes dans une église. Une église dont on voit l'unité attire les gens. Alléluia. Alléluia. On est l'église de Christ, l'église de Jésus. Alléluia. Partageons cette vie avec lui. Lui est la tête. Le corps ne peut pas vivre sans la tête. C'est lui qui dirige cette église. Mais il ne va pas nous forcer. On doit prendre cette décision-là. Je veux servir. Certains vont servir en interne. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont appelés à soigner l'église. Oui, mais les autres, là, sont appelés à quoi ? À sortir et annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de Christ. Alléluia. Et ça, c'est un ministère extraordinaire. Parce que ce que vous allez le faire avec la puissance de l'Esprit. Et il y aura des miracles. Alléluia. Donc, prendre une part dans l'Église. Alléluia. On voit ce qui se passe au début, dans Actes 2, 37, on ne va pas le lire, mais regardez ce qui se passe, les gens sont émus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Ok, on vient d'accepter Jésus. Qu'est-ce que je dois faire ? Regarde. Sors. Et vois ce que le Saint-Esprit va te faire faire. Et dans Actes 2, 47, on lit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alléluia. Le Seigneur était fidèle. Et il l'est encore. Alléluia. L'Église est pour tout le monde. Donc, elle est pour tout le monde. C'est le mot qu'il fallait trouver. On trouve ça aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 13. L'Église, caractéristique de cette ère, elle est pour tout le monde. Ça intéresse tout le monde. 1 Corinthiens 12, verset 13. Alléluia. Donc voilà, on est dans une ère extraordinaire. On a des privilèges extraordinaires. On a une responsabilité qui est à la hauteur de la stature de Christ. On finit son œuvre. C'est son ministère, là, qui s'agit. Alléluia. Et là, on a une épreuve à passer. On a une épreuve à passer. Alléluia. Et c'est important parce que on a besoin de travailler tous ensemble. L'adversaire est tapis, il attend. Il attend quoi ? Le départ de l'Église. Parce que tant qu'il y aura un seul petit chrétien né de nouveau, il ne peut rien faire. Il a peur. Vous imaginez ? Des millions de chrétiens, ils restent tapis. Tant qu'il y en a un seul, il a peur. Oui, mais attention, lorsque le dernier chrétien sera enlevé, ce n'est pas l'objet de cette publication, ce n'est pas l'enlèvement, mais vous l'avez vu dans les schémas. L'enlèvement, c'est quelque chose de tangible. La parole de Dieu, elle en parle. Si vous voulez, dans le polycopier que qu'on va remettre là-bas à l'issue de la troisième session, ça va être détaillé tout ça. Il y a au moins six versets qui en parlent de l'enlèvement, de manière très précise. Donc c'est plus une vue de l'esprit, c'est concret l'enlèvement. C'est la fin de la grâce. La grâce se termine à l'enlèvement, comme elle a commencé à la naissance, quand Christ est né de nouveau. Donc, quand il a été ressuscité, elle se termine à l'enlèvement. Alléluia. Donc, on a un travail à faire là, parce que Satan, là, lui, il attend plus que le dernier chrétien quitte la terre. Et alors là, il a tout mis en place. Je ne sais pas si. Non, on n'a pas le temps. C'est sûr que là, dans les signes des temps, le dimanche prochain, Pasteur Ken va en parler, je pense, mais l'ennemi est en train de mettre en place notre départ. Tout ce qu'il attend, lui, c'est qu'on s'en aille. Oulala, partez, là, vous cassez les pieds, là, les chrétiens. Il attend qu'on s'en aille. Oui, mais là, notre travail, c'est de s'en aller avec plus de gens possible. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les autres et les voir subir des tas de choses, des tribulations? Ou est-ce qu'on va leur dire, hey, viens toi? On va les sauver, on va les ramener. Alléluia. Donc là, peut-être qu'on va sauter un peu quelques diapositives. même pas mal. Ok. Ok. Donc, il faudrait que tu te mettes à la diapositive pour l'appel. J'avais prévu beaucoup de choses ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des autres fois. Ça va revenir. C'est sûr que quand on a ça dans le cœur, quand ça brûle, ça peut que revenir. Alléluia. Alors, une diapositive que je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça sur Internet. Ça, c'est bon, Internet. Regardez ça, là. De loin, on voit une brebis. Ouais, mais c'est pas la brebis qu'il y a, c'est le loup. J'ai compris que c'est très facile de piéger par la parole un chrétien qui connaît pas la parole. Il se piège tout seul. Suivante. C'est un fait. La route est coupée. On n'y peut rien. La route est coupée. Elle a été coupée. Donc ça, il faut quand même le voir. Ces gens-là, tous les gens qui sont autour de nous, la route est coupée. C'est important. L'appel de Pasteur Ken ce matin qui disait « Amenez des gens qui ne sont pas nés de nouveau. » Amenez-les. On parle de quoi, là? On parle de l'éternité. Suivante. C'est sûr que notre péché nous a séparés de Dieu. Il y a un fossé. On ne peut pas sauter au travers. Il y a un précipice. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller de l'autre côté. Ça, c'est l'enfer. Ce côté-là, c'est l'enfer. Et c'est là qu'on est en ce moment. Pardon. C'est là que le monde est en ce moment. Nous on n'est plus de ce monde, hein. Ok? Vous avez compris qu'on n'était plus de ce monde? Oui? C'est bon? Ok? Correct? Nous, on a sauté déjà. Mais peut-être pas tous. Continue. Et ce qu'il faudra dire aux gens, c'est que rien de ce que tu peux faire, toi-même, va changer cette fête-là. Suivante. Seul Dieu pouvait payer pour nous. Suivante. Et il l'a fait. Là, je dirais ouf. Merci Seigneur. Suivante. Il a payé le prix pour mon passage. Vous savez, il y a quelques semaines, on a payé un passage pour passer le bateau pour à Sorel. D'ailleurs, vous aussi, je pense que vous l'avez fait. Ouais. Ben, vous savez que s'il n'y avait pas ce bateau là, ça serait difficile. Pas possible. Non, pas possible. Lui, il a payé pour mon passage. Ce pardon est gratuit, par le seul moyen de la foi. Quel que soit notre passé, Dieu l'a oublié. Suivant. Et le chemin est ouvert. Là, il est ouvert, là. Il y a un passage, là. Il y a un passage, là. C'est ça qu'il faut annoncer à tout le monde. À tout le monde, au monde entier. Il y a un passage. On peut y aller, il est ouvert. Alléluia. Le chemin est ouvert. Est-ce qu'il y en a une autre? Voilà. La noisette. Encore un peu de temps, et puis ça sera fermé. Suivante. Aujourd'hui, c'est à toi de décider. Ne la laisse pas t'échapper. Regardez le même thème. Il est beau, hein? Regardez un petit peu ses yeux, là. C'est comme s'il disait « Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. » Alors oui, je prends le salut. Comment est-ce que je prends le salut? Peut-être que là, c'est le moment de l'appel. Vous savez que traditionnellement, on fait un appel. Alléluia. Je pense que tout le monde est ici est né de nouveau, mais celui qui n'a pas la certitude... Être né de nouveau, ça ne se voit pas dans le sens... Il n'y a pas quelque chose qui t'allume ici, là. C'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre cœur. Comment le savoir? Si jamais vous sortez, et puis vous traversez la rue, puis il y a un Boeing qui vous tombe dessus. Boum, plus rien. Est-ce qu'au fond de votre cœur, vous avez la certitude d'aller au paradis? Si vous avez cette certitude absolue, bienvenue, vous êtes né de nouveau. C'est un test preuve. Si vous avez encore des doutes, ne tardez plus, venez là. Tout de suite. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui nous donnes la preuve, Seigneur, dans notre cœur, de qui tu es. Alléluia. Et ici, tout le monde est né de nouveau, ça veut dire qu'on a un accès au ciel. C'est beau de voir une église remplie de gens nés de nouveau, mais c'est encore mieux de voir les sièges vides, remplis de gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et vous savez quoi? C'est vous qui allez être capable de les inviter. Parce que vous avez l'amour de Dieu en vous. Et quand vous les invitez, ils vont voir une différence. Pourquoi est-ce qu'ils l'invitent? Ils vont voir la manifestation de l'amour de Dieu que vous avez dans votre cœur. Et ça va les attirer. Ils vont voir Jésus au travers de vous. Et là, je vois déjà ces gens remplir tous les sièges. Je vois même des chrétiens obligés de rester debout pour laisser la place aux autres. Alléluia. Alléluia. Je vois cette gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Vous voulez voir des gens naître de nouveau? Amenez-les à l'église. Et puis le Saint-Esprit, pas nous! Le Saint-Esprit va les convaincre. Ils vont voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors on va juste faire une prière. Merci Seigneur parce que tu mets devant nos routes, tu mets des rendez-vous spirituels Seigneur, des rendez-vous avec toutes ces gens Seigneur qui sont là en train d'attendre quelque chose, qui ne savent pas quoi. Seigneur, tu les conduis Seigneur. Au travers de chacun qui part à la moisson ici Seigneur. Parce que nous sommes une église de serviteurs et nous te servons Seigneur. Tu nous as donné ce mandat de la réconciliation avec Dieu. Nous prenons ça au sérieux. Je te rends grâce, Seigneur, d'assister chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Ces personnes ont besoin d'exprimer leur cœur à Dieu, de renouveler des choses. Je les invite à venir ici et puis on va prier là. À tous se mettre à adorer le Seigneur. Merci Seigneur. Ton œuvre est magnifique. Par nos yeux spirituels, nous voyons, Seigneur, ce que tu veux amener, Seigneur.